Audiolib présente L'héritage des espions de John le Carré, lu par Vincent Schmitt. Chapitre 1. Ce qui suit est le récit authentique et aussi précis que possible de mon rôle dans l'opération de désinformation britannique, nom de code Windfall, montée contre la Stasi, le service de renseignement est-allemand, à la fin des années 1950 et au début des années 1960, qui a provoqué la mort du meilleur agent secret anglais avec lequel j'ai jamais travaillé et de la femme innocente pour laquelle il a donné sa vie. Un professionnel du renseignement n'est pas plus immunisé contre les sentiments que le reste de l'humanité. Ce qui lui importe, c'est d'arriver à les refouler, que ce soit sur le coup ou, en ce qui me concerne, 50 ans plus tard. Il y a 2 mois encore, allongé sur mon lit le soir dans la ferme isolée en Bretagne qui me sert de foyer, à écouter les meuglements des vaches et les chamailleries des poules, j'occultais résolument les voix accusatrices qui tentaient parfois de venir troubler mon sommeil. J'étais trop jeune, protestais-je, j'étais trop innocent, trop naïf, trop subalterne. Si vous cherchez des têtes à couper, disais-je à ces voix, allez donc voir ces grands maîtres de la désinformation que furent George Smiley et son supérieur, Contrôle. C'est leur fourberie raffinée, insistais-je, c'est leur intellect érudit et pervers, pas le mien, qui ont accouché du triomphe et du chemin de croix que fut Windfall. Le service auquel j'ai consacré les plus belles années de ma vie m'ayant demandé des comptes, c'est seulement aujourd'hui, dans mon vieil âge et malgré ma stupéfaction, que je me sens contraint de coucher sur le papier, quel qu'en soit le coût, les ombres et les lumières de mon implication dans cette affaire. Comment j'en suis arrivé à être recruté dans le Secret Intelligence Service, le CIRC, comme nous autres jeunes Turcs l'appelions, en ces temps censément glorieux où nous étions installés, non pas dans une grotesque forteresse près de la Tamise, mais dans un prétentieux immeuble victorien de briques rouges qui épousait la courbe de Cambridge Circus, reste pour moi un mystère, au même titre que les circonstances de ma naissance, et ce d'autant plus que les deux événements sont indissociables. Mon père, que j'ai à peine connu, était, à en croire ma mère, le fils prodigue d'une riche famille anglo-française des Midlands. Un homme aux appétits immodérés qui dilapidait son héritage, mais que rachetait son amour pour la France. À l'été 1930, il prenait les eaux à Saint-Malo, où il fréquentait casinos et maisons closes, et globalement vivait sur un grand pied. Alors âgée de 20 ans, ma mère, unique descendante d'une longue lignée de paysans bretons, se trouvait dans cette même ville pour servir de demoiselle d'honneur à la fille d'un riche marchand de bestiaux. C'est du moins ce qu'elle affirme. Mais il s'agit là d'une source non recoupée, et comme elle ne répugnait pas à enjoliver les faits quand ils n'allaient pas dans son sens, je ne serais pas surpris qu'elle fût venue en ville pour des motifs moins dignes. Elle raconte s'être éclipsée après la cérémonie avec une autre demoiselle d'honneur. Légèrement pompette après une ou deux coupes de champagne, elles quittèrent la réception dans leur tenue de noces pour aller baguenauder sur la promenade, fort fréquentée ce soir-là, où mon père déambulait lui aussi en quête d'une rencontre. Ma mère était jolie et frivole, son amie un peu moins. Une idylle éclair s'ensuivit, dont la précipitation effaroucha ma mère de façon bien compréhensible. Mais un nouveau mariage fut bientôt organisé, et j'en fus le fruit. Mon père, semble-t-il, n'était pas fait pour la vie matrimoniale et, même dans les premières années, réussit à être plus souvent absent que présent. C'est là que l'histoire prend un tour héroïque. Comme nous le savons, la guerre change tout. Et elle changea mon père du jour au lendemain.